Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ?
Bonjour Alexandre et Mathieu.
Salut.
Salut.
Alors on se retrouve pour notre dernière réu de rédaction consacrée à Denis Villeneuve. Alors on a déjà retracé une bonne partie de sa filmographie du Québec à ses débuts aux États-Unis, mais Denis, il s'arrête pas là et il commence à obtenir des budgets de plus en plus énormes et en profite pour propulser ses thématiques phares dans des récits de science-fiction. Et donc après, on avait parlé d'Ennemi, de Prisoners et de Sicario, donc mine de rien des films dans lesquels en termes d'ampleur et d'échelle ça a grimpé petit à petit. Le film qu'il a peut-être le plus révélé quand même au grand public, c'est Premier Contact qui sort en 2016. Alors qui moi j'avoue, pendant très longtemps je pense qu'Ennemi était peut-être mon Villeneuve préféré pour le côté justement très cérébral et tout ça. Mais en ayant redécouvert Premier Contact, que j'avais déjà beaucoup aimé au moment de sa sortie, je pense maintenant que ça reste mon préf. Donc ce film qui doit beaucoup quand même, ça faut le dire, au scénario de Eric Heisserer, donc qui était lui-même basé sur une courte nouvelle qui s'appelle L'histoire de ta vie de Ted Chiang. Et Villeneuve est vite tombé amoureux du scénario et surtout bah Heisserer a vraiment beaucoup développé le scénar et il dit qu'il y a peu de réal avec qui il a travaillé autant en communion qu'avec Villeneuve sur ce film-là, et que Villeneuve lui aurait dit d'ailleurs une fois qu'il avait validé, enfin qu'il avait signé le contrat pour faire le film, il lui a dit bon bah maintenant on est mariés, et il lui a souvent demandé de l'aider pour développer certains trucs autour du film en cours de route. Donc ça parle de quoi Premier Contact ? Eh bien ça raconte l'histoire de Louise Banks, qui est incarnée par Amy Adams, qui est une linguiste très très réputée, et qui est mandatée donc par le gouvernement américain, puisqu'il y a plusieurs vaisseaux extraterrestres qui débarquent aux quatre coins du monde, et on lui demande bah, de dialoguer avec les extraterrestres qui ont un langage bien à eux, qui sous forme de tache de café un peu chelou. Et l'idée, c'est de leur apprendre à la fois...
Le sinistros.
C'est exactement ça, ouais. C'est dans le marc de café.
C'est ça. Elle essaie non seulement de leur apprendre l'anglais, mais aussi de comprendre ce qu'ils veulent et pourquoi, du coup, ils sont là, tout en étant aux côtés d'un scientifique qui, lui, est incarné par Jeremy Renner. Voilà, voilà.
Et c'est un très grand film.
Et c'est un très grand film. Je pense qu'on peut le dire. Moi, j'avoue que il y a un truc en fait qui me plaît énormément dans Premier Contact. C'est bon, je pense qu'il faut. Désolé, mais on va un peu spoiler le cœur du film, qui est donc que les aliens débarquent avec le pouvoir plus ou moins, enfin un cadeau qui est donné à l'humanité de pouvoir comprendre leur langage, qui n'est pas un langage du temps, enfin qui est un langage qui permet de percevoir le passé, le présent et le futur de manière simultanée.
Oui, c'est ça.
Et donc plus on l'apprend, plus justement le personnage de Louise se retrouve possédé par cette même faculté. Et je trouve que Villeneuve, tu vois, jusque là, avait toujours ce truc de son montage, y compris dans ses montages alternés ou dans ses effets de flashback ou dans sa rétention d'informations, avait toujours un truc très petit malin, tu vois, qui pouvait parfois être un peu agaçant. Et là, en fait, je trouve qu'il y a vraiment un pas qui a été franchi avec Premier Contact et qui, en fait, je pense que c'est un truc qui ne lui était permis que par la science-fiction, cette espèce de prise de distance avec le propre langage du cinéma. Et donc, Premier Contact a une hypothèse qu'il cite explicitement dans le film, qui est l'hypothèse de Sapir-Whorf, qui donc explique l'idée que notre perception du monde bah, dépend de notre langage et ça joue sur notre manière de penser, en fait. Et donc, déjà, au sein des diverses langues humaines, ça arrive que on pense différemment selon la langue qu'on parle, mais donc évidemment que dans une langue qui dépend d'êtres qui perçoivent le temps différemment de nous, bah ça a un impact aussi direct sur nous. Sauf qu'en fait, je pense que Villeneuve, il va plus loin que ça, parce que non seulement Louise ressent ça, mais toi, tu le ressens d'un point de vue purement de spectateur de cinéma. Avec son langage du cinéma, il te joue là-dessus en détournant un des trucs les plus basiques qui soient, à savoir l'effet Kuleshov. Donc l'effet Kuleshov, ce fameux truc où tu mets le gros plan de quelqu'un de manière neutre et tu lui mets une image en face, et si, selon l'image que tu lui mets, l'expérience veut que tu interprète le visage du mec différemment. Et au début de Premier Contact, il y a cette idée que je trouve en fait brillantissime de te montrer toute la vie que Louise a eue avec sa fille, qui va donc attraper une maladie très rare au début de sa vingtaine et qui va mourir de ça. Et donc, quand ça arrive au début du film, tu supposes que c'est le tout début du film. Et que plus tard, quand du coup les aliens débarquent et qu'elle ne fait pas vraiment attention à ce qui se passe à la télé, tu supposes que c'est parce qu'elle est endeuillée et c'est pour ça qu'elle n'y prête pas vraiment attention. Et donc, que tout ce qui se passe, enfin, qu'elle va connaître une forme de renaissance dans sa vie grâce à l'intervention avec les aliens. Alors qu'en réalité, tu découvres plus tard dans le film que tout ça n'est que son futur, dont elle a des bribes au fur et à mesure, qui ne sont pas donc des flashbacks, mais des flash-forward de ce qui va lui arriver, et qu'elle doit accepter. Donc, tu as complètement mal interprété en tant que spectateur une écriture basique de cinéma à ce moment-là, et Villeneuve te la met complètement à l'envers, ce que je trouve très très efficace de sa part, d'autant qu'il choisit, je pense, de métaphoriser ça de manière encore plus explicite, puisque la salle des extraterrestres est une salle noire dans laquelle il y a un écran blanc avec les avec
quasi littéralement format cinémascope. Hein,
oui, en plus à ce niveau-là, quasi du format cinémascope, effectivement. Donc il y a cette idée du dialogue direct, mais qui pour moi reflète tout ce qui est une thématique finalement assez centrale dans son cinéma, c'est que c'est pas seulement de te dire c'est une métaphore du cinéma et le cinéma c'est beau et c'est voilà, c'est je trouve le niveau un peu basique du truc, c'est que ce personnage là en fait de Amy Adams, tu l'interprètes mal au départ, mais ce que tu comprends ensuite c'est que, et elle le dit elle-même, c'est pas parce que t'es linguiste que tu sais dialoguer avec les gens, et elle est très seule, elle est très, elle reste justement de son côté à elle de l'écran, elle a une maison immense, une sorte de penthouse avec qui donne sur un jardin, mais elle reste jamais de l'autre côté de la fenêtre, enfin tu vois, elle reste de son côté confortable à l'intérieur de la fenêtre. Et donc ce que te dit le film aussi, c'est que fatalement elle doit apprendre à vivre, et si tu veux pouvoir te projeter toi-même en tant que spectateur dans une fiction de cinéma, c'est pas juste en recevant ce qu'on te donne, c'est il faut y projeter tes propres émotions pour recevoir à ton tour. Et donc c'est un dialogue, et c'est un dialogue qui nécessite d'apprendre le langage de l'autre et d'y mettre tes propres choses. Et je trouve que là-dessus, c'est peut-être l'une des thématiques majeures de Villeneuve, de réapprendre à vivre. Donc on en a parlé sur Polytechnique, on en a parlé sur Incendie et sur finalement beaucoup de ses films, mais à l'échelle cosmique, tu vois, de Premier Contact, mais qui finalement est toujours réduit à l'échelle très intime de son personnage principal, je trouve ça absolument brillant.
Ouais, et pour revenir à ce que tu disais sur cette idée de flash forward et de flashback, enfin qu'on pense être des flashbacks plus ou moins, mais qui sont des flash forward, je trouve qu'il y a, il me semble que c'est l'avant-dernière phrase du film où en fait elle étreint pour la première fois le personnage de Jeremy Renner et qu'elle lui dit j'avais oublié ce que ça faisait d'être dans tes bras, et je trouve que c'est une des plus belles phrases qu'on peut avoir dans le film, qui est vraiment cette sensation de retrouver quelque chose qu'elle n'a jamais connu en fait. Et c'est tellement beau, tout simplement, en fait. Je sais pas quoi dire, j'ai pas beaucoup les mots pour dire, pour décrire quelque chose que je trouve assez bouleversant. Mais, c'est sûr que c'est un film, encore une fois, qui, c'est quelque chose qui revient énormément, dans la filmographie de Villeneuve, et qui est vraiment le point d'ancrage ultime de Premier Contact, cette histoire de, ce besoin de communiquer en fait, et de savoir communiquer surtout entre nous, entre ce qui est proche de nous et ce qui est loin de nous. Dans Premier Contact, c'est cette idée de besoin de communiquer avec les aliens, pardon, mais aussi grâce aux aliens, on pourra communiquer entre nous, tout simplement, entre humains, entre nations, entre étrangers, etc. Mais il y a toujours cette question de la communication et comment, en effet, on interprète par rapport à notre côté, finalement, de la chose, tout ce qui se passe autour de nous. Dans Sicario, il y avait cette question de la barrière entre les Mexicains et les Américains, et notamment de la barrière de la langue, aussi d'une certaine manière. Dans Blade Runner, on verra, il y a toute cette question de la communication entre les androïdes, les personnes humaines, etc., tout ça. Dans Enemy, t'as vraiment cette communication, comment il vit entre lui, enfin, il a avec deux communications, deux gestuelles différentes par rapport à ce qu'il fait, etc. Et même dans Prisoner, si on extrapole au point ultime, c'est que quand même à la base, elle elles disparaissent parce qu'elles vont chercher un sifflet pour pouvoir communiquer.
Oui, c'est ça.
Au cas où elles soient perdues.
Et le personnage de Paul Dano est présumé coupable de par son incapacité
parce qu'il
de s'exprimer. Ouais.
Exactement, parce qu'il ne s'est quasiment communiqué que par énigme, ou en tout cas, on peut penser que c'est des énigmes. Et du coup, c'est ça que je trouve très fort, encore une fois, dans Premier Contact, c'est la capacité qu'il a à faire un grand récit de science-fiction, parce que c'est quand même des aliens qui débarquent, le faire d'une manière un peu inattendue, c'est comment on réagirait, mais vraiment comment on réagirait. C'est pas une attaque du tout. C'est justement, est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est bienveillant? Qui sont-ils? Que veulent-ils? Et comment on apprend à communiquer avec des extraterrestres, tout simplement, des personnes non humaines qui ne savent, enfin, dont on ne sait rien.
Et à quel point
comment il faut
renvoie,
tout réapprendre.
Oui. Et à quel point elle nous renvoie finalement à notre propre miroir. Parce que ce qui est intéressant, c'est que, du coup, bon, jamais les aliens ne seront, eux, belliqueux. Mais tout de suite, on projette, nous, en tant qu'êtres humains, des intentions belliqueuses, notamment sur certains termes, du coup, qu'ils communiquent, où on se dit, est-ce que c'est un appel à la violence ou pas? Est-ce qu'on nous parle d'un outil ou d'une arme qu'ils voudraient nous donner? Est-ce que le cadeau qu'ils veulent nous donner, c'est potentiellement quelque chose de dangereux? Et en fait, ce qui est génial, c'est que là, ça nous renvoie à notre propre truc avec cette réplique géniale dans le film où quand il y a cette idée de un douzième, est-ce que c'est une faction qui doit l'emporter sur les autres, et que Louise dit, mais il n'y a aucune preuve que c'est ce qu'ils veulent nous inciter à faire, de nous battre entre nous pour récupérer l'arme qu'ils nous promettent entre nations, et où quelqu'un lui dit, prenez un livre d'histoire, et en fait, juste regardez un livre d'histoire. Et à quel point, en fait, on fantasme sur le langage des extraterrestres notre propre incapacité non seulement à dialoguer, mais à supposer de la violence sur quelque chose, qui est d'ailleurs dit au tout début du film quand donc Yann, le personnage du scientifique, lit dans l'hélicoptère le livre écrit par Louise, et que la phrase qui est dite, c'est « La langue est la base d'une civilisation, le lien qui unit un peuple, c'est la première arme dégainée lors d'un conflit. »
Bah c'est très beau, parce qu'en plus, ce qui est au-delà de l'interprétation du langage des extraterrestres, il y a aussi cette interprétation, eux ils traduisent d'une certaine manière, mais finalement les autres eux-mêmes le traduisent d'une autre manière, parce qu'ils n'ont pas la même langue. Enfin, les Chinois sont en chinois, les Russes sont en russe, et il y a des toutes petites distinctions qui, même au-delà de termes armés, militaires, etc., ont des vraies des significations. Enfin, il y a des mots qui existent dans certaines langues, c'est ça,
oui, voilà.
Qui n'existent pas en français et qui existent en anglais ou d'autres langues, etc. Et c'est ça qui est assez fort et assez beau, notamment via le personnage d'Amy Adams, Louise, qui au fur et à mesure apprend à comprendre leur langage, et finalement, en pensant à leur manière, va réussir à décortiquer réellement le message ultime, et au-delà de ça, à comprendre ce qu'il va se passer.
Oui.
Parce que finalement, si elle résout le conflit, désolé spoiler, mais si elle résout d'une certaine manière le conflit qui est en train de se créer par rapport à l'arrivée de ces extraterrestres, c'est parce qu'elle réussit à penser au-delà de la manière dont les humains réfléchissent, mais pas dans une idée de juste réflexion. C'est réflexion temporelle, extra-temporelle, de comprendre l'avenir, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment très très beau.
Mathieu, vous me regardez, mais ça fait 20 minutes que vous avez tout dit. Donc, merci. De manière plus générale, bon, moi j'adore Premier Contact. Je l'avais vu en avant-première au Festival de Science-Fiction des Utopiales, dans une avant-première de fou. Je crois que c'était française. Et comme dans les projos, ils avaient mis des vigiles partout parce qu'ils avaient vraiment galéré à avoir l'aval de Sony. Tu m'étonnes, c'était quand même très attendu. Et grosse claque, hein, j'avais adoré. Ouais. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Je pense que c'est aussi le moment où tous les studios et les films se battaient pour être celui qui va faire découvrir Max Richter au grand public en premier, et ils ont gagné sur moi
dans la musique.
Voilà.
Ouais,
je suis sorti, j'ai fait qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, et ensuite j'ai vu que ça venait pas vraiment de la BO qui est
dingo de
par ailleurs incroyable. Ouais. Voilà. Mais que voilà, Dying of the Light là, Nature of Daylight pardon, qui ensuite a contaminé à peu près tout le cinéma,
mais qui fonctionne très bien sur le côté un peu Terrence Malickien, des séquences notamment de Louise avec sa fille à travers l'âge d'ailleurs, et comment elle finit par tellement parasiter le passé et le présent qu'elle peut interagir directement avec ce qui sera des visions de son futur. Et c'est vrai que ça rajoute, je trouve, une émotion. Les scènes peuvent paraître simples, tu vois, jouer avec elle dans le jardin, avec elle en costume de cowboy et tout ça, mais en fait à ce moment-là l'émotion te chope tellement que c'est assez simple de. Et on l'a pas dit aussi, mais du coup pour une fois il n'a pas Roger Deakins à la photo, mais il a la preuve aussi que une des grandes qualités de Villeneuve à partir de son début aux États-Unis, c'est quand même ses chef-op. Et là il a Bradford Young qui plus tard fera la photo polémique, mais je trouve intéressante, de Solo Star Wars Story, et je trouve que c'est de loin une de ces, enfin c'est une photo absolument magnifique, celle de Premier Contact.
C'est intéressant que tu parles de Star Wars parce que justement j'ai vu Utopial, qui est un festival assez pointu on va dire sur la science-fiction en règle générale, et je me rappelle surtout que ça faisait extrêmement plaisir un an après le retour de Star Wars, où tout le monde ne parle plus que de space opéra, que lui il revienne avec, alors je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme de la hard science, mais on est quand même dans une science-fiction qui est beaucoup plus, alors sans du tout dénaturer, enfin moi j'aime beaucoup le space opéra, hein, mais qui est autre et qui est quand même rarement vu à Hollywood. Là on a quand même un gros budget pour parler d'une science-fiction qui parle d'épistémologie et de langage, enfin ouais, je veux dire waouh quoi, vas-y mec, il y a pas d'action dans le sens, il y a pas de baston, c'est un spectacle extrêmement épuré. Et ouais, on a vraiment un traitement de la science-fiction qui est très intellectuel, encore une fois, mais qui prend pas du tout le spectateur de haut, pour le coup, qui est vraiment, tu vois, humain, quoi, voilà.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, c'est assez cool que ce mouvement-là se crée en parallèle, parce que, si je dis pas de bêtises, eux, quand ils ont commencé à développer le truc, il y a Interstellar qui est arrivé, en fait, entre deux, et dans l'une des premières versions du script, ils voulaient que les extraterrestres leur donnent de quoi faire un voyage à Interstellar.
Ah oui.
Et après avoir vu Interstellar, ils se sont dit, ben non, ça peut pas être ça. Mais du coup, ouais, ça a participé à un style de mouvement comme ça, d'une science-fiction un peu différente, et qui... alors, je me rappelle plus si le film a marché. Mais
oui, il a plutôt bien marché, parce qu'en fait il a pas coûté si cher que ça, il a coûté 46 millions.
Ah ouais, sérieux seulement?
Imagine, il a coûté moins cher que Prisoners.
Bah, il y a deux décors, hein, en vrai. Une fois qu'ils sont dans le truc où il y a le vaisseau qui se balade, ils ont créé une base militaire et tu n'en sors quasiment c'est jamais vrai. Pour le reste du film. En fait, c'est assez malin.
En fait, les plans avec les genres de grands vaisseaux sont tellement spectaculaires que tu finis par te dire que ça a coûté
mais
cher.
Mais dis-toi justement que d'ailleurs, je crois que c'est Amy Adams qui disait qu'elle amène rarement sa fille, je crois, sur ses plateaux de tournage, mais a trouvé le studio village de Premier Contact tellement cool et tellement familial qu'en fait, elle a dit, bah, je peux ramener mon enfant. Il n'y a pas de problème. Et je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais, sur même ce côté très humain et cette simplicité, et ce côté de ne pas prendre de haut le spectateur. Pour le coup, je trouve que ça reflète un truc dans la qualité que peut avoir Villeneuve de vraiment transcender un super script quand tu lui en files un. Et je trouve qu'il faut vraiment pas sous-estimer à quel point l'écriture de Premier Contact a été difficile pour Eric Heisserer. Et il le disait lui-même, et ça, je trouve ça assez amusant, à quel point c'était compliqué de traduire son mauvais jeu de mots, justement l'analyse que Louis fait avec les extraterrestres pour comprendre leur langage et comment tu fais comprendre notre langage aux aliens, et où en fait à la base ses amis à qui il faisait lire le scénario disaient qu'ils ne comprenaient pas, enfin que c'était indigeste au possible, parce que t'avais plusieurs sessions mais vraiment filmées tel quel de comment tu leur expliques des mots et tout ça, et où tout le monde lui disait c'est beaucoup trop long, c'est chiant, on comprend rien, ça marche pas. Et donc il s'était retrouvé en fait à leur dire mais si, c'est essentiel, parce que regardez, en fait je prends un tableau, je vous pose une question,
c'est ça.
et on décortique la question, et au final du coup ses potes lui ont dit mais en fait c'est ça que tu dois mettre dans le film, c'est cette scène là tu nous expliques pourquoi c'est essentiel qu'il y ait ces sessions là sans nous les montrer. Et t'as cette scène géniale où effectivement Amy Adams prend un tableau blanc et leur dit What is your purpose on Earth, et elle décortique pourquoi you c'est le you global et pas juste you toi individu, purpose, faut expliquer le sens du mot, tout ça,
et surtout il faudra avoir suffisamment de vocabulaire pour pouvoir comprendre leur réponse.
Voilà, c'est ça. Et en fait je trouve que t'as une efficacité, parce que là pareil on en parlait avant, mais sur la durée le film dure 2 heures, il est ultra ramassé. Là en le revoyant je me disais mais comment en 30 minutes le truc est lancé, comment il va avoir le temps après de ramener tout le reste, et en fait ça arrive tellement vite. Et parce qu'il arrive justement, parce qu'on disait plutôt à manipuler ce langage du cinéma, à le pervertir au fur et à mesure en mêlant les dimensions et les trucs comme ça, comme il met du Sapir-Whorf au sein même du film, tu comprends instinctivement que Amy Adams se fait petit à petit parasiter un petit peu par le langage alien, et qu'elle voit les choses différemment. Et en fait, le film est très beau là-dessus, dans sa manière de te dire, en fait, le cinéma a ses limites, justement, en tant que média du temps, et comment on ne peut pas... tout est limité par le point de vue de la caméra et le point de vue du metteur en scène. Et ça, y a un truc très beau qui a été montré dès le départ, c'est que quand il rentre dans le vaisseau, qui a du coup une espèce d'absence de gravité super efficace, la première fois qu'il rentre dans la pièce, ils sont au plafond, en fait. Ouais. Parce que techniquement, c'est comme ça qu'ils sont, même si plus tard dans le film, tu les verras à l'endroit, parce que eux le ressentent comme ça, en fait. Et je trouve le film plein de petites malice comme ça, plein de petits éléments qui vraiment le rendent assez magistral, et où en fait je me dis Villeneuve a vraiment trouvé avec la science-fiction un terreau parfait pour ça, parce que ça lui permet d'avoir une échelle énorme qu'il n'avait pas forcément avant, et de s'amuser avec le langage du cinéma comme il ne pouvait pas le faire avant, mais avec des thématiques qui sont finalement celles de ses précédents films.
Ouais, t'as ce défi de transcrire dans un art hyper visuel le cinéma, qui est finalement un défi un peu ultime, une histoire qui parle de langue et de langage, qui est une sorte de gigantesque paradoxe dont il s'empare avec franchement une certaine maestra, quoi. C'est assez impressionnant.
Ouais, et en même temps, c'est peut-être ce que tu disais par rapport à l'hypothèse Sapir-Whorf, cette idée que elle par rapport le film choisit de plus ou moins reposer même ne serait-ce que sa structure sur cette idée-là. C'est peut-être ça aussi qui a fait que le film a bien marché au box-office, hein. Il a fait 100 millions aux États-Unis et il a fait 203 millions dans le monde. Donc c'est énorme. Même en France, il a fait que 866 000 entrées, mais globalement, il a extrêmement bien marché à l'international et dans le monde globalement. Mais c'est peut-être ça aussi qui a peut-être un peu déçu les spectateurs. C'est que si tu réfléchis bien, vu que le langage du cinéma non plus ne peut pas être totalement déconstruit dans un seul film, c'est que au fur et à mesure on commence à bien se douter ce qui se passe. C'est que elle a des visions, et en fait la manière dont ils écrivent, c'est comme s'ils écrivaient avec deux mains le bout de la phrase, le début de la phrase et le bout de la phrase en question, et qu'en fait ils savaient combien de mots allaient se placer entre, alors qu'ils n'ont pas commencé mais qu'ils l'ont déjà fini. Enfin, il y a cette idée là tu comprends que finalement, c'est peut-être ça, je pense, qu'il a un peu déçu les spectateurs. Nous, on est d'accord pour dire que c'est un de ses grands films, mais je suis pas sûr que ça soit aussi unanime, en dehors de l'aspect visuel et de fait que les effets spéciaux sont dingues, etc. Juste purement narratif et scénar, c'est peut-être ça qui est un peu déçu. Mais moi, je trouve que c'est très beau, parce qu'il est capable de créer une forme de poésie constante, notamment via l'évolution de elle, son personnage, et de toutes ces visions qu'elle a, hein, une vision que Denis Villeneuve aime bien, hein, on en reparlera dans Dune, hein, mais c'est quelque chose qu'il apprécie, les visions. Et c'est le fait que ça soit aussi poétique me le rend vraiment bouleversant, et jusqu'à la toute dernière phrase.
Ah ouais.
On pourrait le remontrer en faisant ce que Déborah avait prévu de faire, c'est-à-dire passer la trilogie avec Premier Contact, Contact et Full Contact.
C'est ça.
Mon Dieu. En parlant de saga, du coup, Denis, il a la cote, et donc on lui file, ça y est, des franchises, et on lui file pas n'importe quoi, puisqu'il a accepté de réaliser la suite tant fantasmée et à la fois tant redoutée de Blade Runner 2049, qui sort du coup en 2017.
En effet, donc lui-même, à l'origine, il a fait non.
Pas touche.
Pas vraiment, non. Donc c'est un projet de longue date, hein, Blade Runner 2. Du fait des droits de la nouvelle originale, mais de toute manière, le film étant tellement vaguement basé sur le roman de Dick que bon, voilà quoi. Et Ridley Scott a bien failli le faire un paquet de fois.
Et heureusement que ça n'est pas arrivé.
Je ne suis pas d'accord, mais on va pas commencer ce débat. Mais il a fini par ne pas le faire, car il était trop pris par Alien Covenant. On arrête les blagues.
Non, mais il a décidé de détruire une autre franchise, et tant mieux.
Donc, mis à part ce point de discorde absolu dans la rédac, je sais pas. Oui, donc il s'est rabattu sur Denis Villeneuve, ce qui était un choix absolument parfait.
Sachant qu'il reste à la prod et plus ou moins à l'idée de scénario de base.
Oui,
donc
il a participé au scénario, non crédité.
Éloigné.
Paraît-il. Enfin, son statut est un peu particulier, parce que il a participé au scénario, c'est assez revendiqué. Par contre, quand le film s'est crashé, il a fait « Oh bah oui, c'est vrai que c'était un peu long et un peu chiant. » Et t'étais en mode « Bon bah, t'étais impliqué à quel point, sœur ?» Donc,
sœur de Last Cut.
Donc, il s'est quand même... alors, ils l'ont invité dans un meeting secret au Nouveau-Mexique, dans un café. Enfin, il y a vraiment un côté... agent secret, quoi, dans la genèse de ce film, parce que c'était tellement le truc le plus redouté et le plus attendu. Et donc lui, au début, il a vraiment hésité, mais il a trouvé le scénario génial, et c'est ce qui l'a convaincu de finalement, après le mûre réflexion, de s'y atteler, notamment parce que le scénario lui reprochait, par exemple, Incendie, Il y a un rapprochement à faire dans ce personnage qui part à la recherche de ses origines et qui va y trouver déception. bon, malheureusement, il n'y a pas d'inceste dans Blade Runner, mais on a quand même alors d'ailleurs c'est pas Ridley Scott qui a approché directement Villeneuve, c'est Alcon, la société de prod qui est allé le voir directement. Donc voilà, alors il y a des millions d'anecdotes sur la production de ce film qui est quand même complètement mégalo. Je pense qu'on peut le dire. Donc à l'arrivée, on a un truc qui fait 2h45, je crois.
Ouais, plus 150 millions de dollars de budget.
Plus de 150 millions de dollars. Ah, parce que ça, c'était le chiffre officiel, mais depuis, on a plus ou moins compris que voilà. D'accord. Et puis voilà, vu que c'est l'éléphant au milieu de la pièce, Antoine, c'est comme ça qu'on dit.
quel bâtard.
C'est le plus gros crash de sa carrière. Alors, c'est évidemment un des films qui a fait le plus d'argent, puisque c'est un énorme film. Mais. De récente mémoire, Hollywood, on a quand même rarement vu un truc aussi énorme. Donc le film aurait coûté plus de 150 millions de dollars. Et à l'heure où je parle, il en a récolté 267 millions. Ce qui est plus, mais sur un truc aussi énorme, ça leur a fait perdre beaucoup d'argent. En l'occurrence, selon plusieurs papiers américains, ça aurait fait perdre à Sony la modique somme de 80 millions de dollars.
Ouch.
Ouh. Voilà. Et donc oui, c'est là, c'est Ridley Scott qui a fait « Ouais, bah, c'est parce que c'était un peu chiant, quoi.
» Bah, est-ce que, au fond, la question n'est pas « Est-ce que c'est pas un peu chiant, quand même ?»
Oh. Bah, alors... Moi, j'adore Blade Runner 2049. La revision me l'a fait peut-être un peu moins considérer que quand je l'ai vu en salle et j'ai fait immense film incompris. Mais si on part de la réception, il y a vraiment rien d'étonnant à ce que le film se soit planté. Déjà, Blade Runner à l'origine, c'est hyper culte quand t'es dans la bulle un peu cinéphile et tout le monde le connaît. Oui. Mais déjà à l'origine, le film n'a pas marché, hein, le premier. Et je veux dire, pour beaucoup de gens, ça reste une sorte de classique un peu indéfini. Enfin, tu sais, c'est pas Star Wars, tu vois, on n'est pas dans la grosse franchise. Franchement, de là à claquer 150 millions de boules pour en faire une suite, c'était quand même un long shot déjà de base. Et en plus, le truc, pour moi, et c'est ce qui fait sa plus grande qualité, c'est un anti-blockbuster. C'est 2h45 de Ryan Gosling qui se bat en faisant la gueule, en réfléchissant sur son origine, qui il est, etc. Il y a zéro action, à part au tout début avec Batista, peut-être. C'est hyper éthéré, c'est à la fois extrêmement minimaliste et extrêmement vaseux. On est vraiment dans une photo de film indé Sundance qui est superbe, hein, au passage, bien sûr.
Un peu plus que du Sundance quand même.
Ouais, non, mais je veux dire,
ça a de la thune, hein.
Ce que je veux dire, c'est que il y a un côté radical dans la photo notamment,
oui,
qui est quand même hyper étrange pour un,
ouais, c'est arty, quoi,
pour un gros film. Même, tu vois, Ana de Armas, gros argument casting qui est utilisé pour tourner en dérision son image, en fait, hein. Enfin, ouais. C'est vraiment totalement un anti-blockbuster complètement inventable en réalité, et ça s'est complètement planté, mais c'est assez dommage, je trouve, car il y a des tas de trucs hyper intéressants. Alors on pourrait parler des millénaires de la trajectoire de K, donc qui est donc le personnage joué par Ryan Gosling, donc lui-même Blade Runner, qui suite à une confrontation avec du coup le personnage de Batista tombe sur une sorte de caisse un peu étrange, et en fait le point de départ plus ou moins, c'est est-ce que y aurait pas désormais un moyen pour les réplicantes de enfanter, tout simplement, ce qui est quand même une,
et est-ce qu'il serait pas le premier, est-ce qu'il serait pas
les, exactement, en fait, que lui se pose ça, cette question. Et du coup il y a, pour moi, ce qui fait tout l'intérêt de cette suite, qui est que dans le premier, c'était un homme qui se posait la question de savoir s'il était réplicante, dans la meilleure version, bien sûr. Et dans la suite, on a la question d'un réplicante qui se pose la question de ce qui serait pas un peu humain, finalement. Et c'est quand même pas mal comme idée. Et je trouve, oui, que c'est bien développé, même s'il y a des gens, je sais, qui ont fait un rejet absolu. J'ai parlé notamment quelqu'un qui a pigé pour nous à une époque où on en avait parlé, qui m'avait dit que il était parti de la salle tellement ça l'avait énervé.
Ah ouais.
Donc carrément, il y a des gens qui ont trouvé détesté absolument, mais moi je trouve que c'est vraiment très très bien, et c'est quand même très fort de faire un film cool avec Jared Leto, donc même Ridley Scott a pas réussi, si tu veux. bouffe
mais
donc voilà.
Alors moi je suis pas aussi extrême, mais je suis vraiment, en fait, faudrait d'ailleurs que je remate, parce que je l'ai pas rematé depuis la salle, mais je sais que j'étais vraiment passé à côté, et que au-delà des qualités esthétiques évidentes du film, je trouve que thématiquement c'est à la fois très fouillis, mais ça, pour moi, bah, l'éternel problème de Villeneuve dans ce genre de cas, qui est que c'est tellement démonstratif que ça me gonfle, en fait. Et pour le coup, tu vois, on parlait de sa capacité à gérer la longueur de ses films et de se dire je fais ce que je veux, mais alors là pour le coup c'est vraiment le cas où je me suis bro raccourci. Mais putain, mais vraiment Ryan Gosling qui passe des plombes dans un nuage orange à se balader pour dire je n'y a rien autour de moi. Ok, au bout de deux minutes j'ai compris, d'accord.
Il y a beaucoup de gens qui ont fait le parallèle avec Stalker d'ailleurs de Tarkovsky justement. Voilà.
Ouais, mais en fait tu vois, et surtout je me suis posé une question parce que ça pour moi c'est toute la, je me suis dit en même temps est-ce que je peux reprocher à Villeneuve d'être poseur dans un film comme ça alors que clairement Blade Runner 1 c'est supra poseur, tu vois, il y a pas plus poseur que ça, c'est le film par le pubard par excellence en fait. Mais il y a une esthétique dans Blade Runner 1 déjà qui pour moi change d'un truc très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans Blade Runner 1 alors que Blade Runner 2 est tout le temps vide. Alors je sais que c'est un peu la volonté aussi du film, mais pour moi ça rend le truc assez chiant à suivre au bout d'un moment parce que tu t'as rien de grouillant dans cet univers là et surtout il y a souvent la question pour moi de passer le point de vue de Ryan Gosling, tu suis qui? Là où dans, tu vois, dans Blade Runner 1, j'ai vraiment cette sensation que même quand il semble décousu, les plantes racontent toujours dans leur agencement une sorte de mouvement global de cette vie, de cette société, de ce truc complètement dystopique. Alors que dans le 2, j'ai souvent l'impression d'avoir une suite de fonds d'écran très jolis au demeurant, mais où j'ai du mal à comprendre pourquoi ils sont rassemblés de telle manière. Et je me dis, ce plan est très beau, mais je comprends pas pourquoi il s'enchaîne.
Fond d'écran, scandaleux.
Il enchaîne avec le plan suivant et je me dis, mais pourquoi en fait, tu vois. Et très régulièrement, je me dis, la seule excuse, c'est que t'as le vaisseau qui va traverser plusieurs espaces définis pour te dire, voilà, je passe d'un point A à un point B, et donc tu as les différents plans qui permettent de justifier ça. Mais je me dis, ok, mais tu me racontes quoi avec ça, en fait?
Bon, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant quand tu le replaces dans sa filmographie, du coup. Parce que Blade Runner, pour moi, c'est vraiment le film qui explicite sa vision de la science-fiction. Là où Premier Contact est quand même, comment dire, tient beaucoup à son scénario. Dans Blade Runner, il y a vraiment une volonté d'imposer sa vision de la science-fiction, qui est donc très inspirée, comme on l'a déjà dit, par l'architecture brutaliste. Voilà, tout cette vision d'une sorte d'utopie des années 60 qui est un peu totalitaire sur les bords, parce que c'était vachement utilisé notamment par le camp de l'URSS. Et pour moi, Blade Runner, il y a une note d'intention directe, c'est que le film commence... T'as le fameux plan sur l'œil qui a donné son identité au film de Ridley Scott, qui s'enchaîne dans l'original sur ces plans
de
représente la vision de Ridley Scott de l'époque, donc littéralement le cyberpunk, hein, le film noir de science-fiction où tout est pourri. Et lui, vu qu'il va plus loin dans le temps, il réfléchit à une société où il n'y a plus rien en fait. Enfin, on a passé le futur, c'est le post-futur. Il y a un côté vraiment il y a plus d'humain, il y a plus que du vide. Et toute la scène avec Harrison Ford, je trouve, est assez géniale par rapport à ça. C'est-à-dire que ramener Harrison Ford de Blade Runner, ça ressemble vraiment au truc marketing à la con. Et évidemment que ça a joué, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de fort de le ramener comme ça dans une sorte d'espace liminal complètement, qui est censé être une zone d'ailleurs non habitée, hyper dangereuse. Parce que, voilà, c'est sa vision du futur. C'est un monde où les gens essayent de survivre dans le vide et qui, avec tous les problèmes que j'ai avec Dune, premier du nom, s'accorde vraiment beaucoup à la vision d'Herbert, en fait. Et c'est pour ça que je pense que lui, qui est un grand fan de science-fiction, il y a plusieurs univers qui peut s'approprier par rapport à ça, mais pas tous, en fait. Et tu vois, là, par exemple, Blade Runner, voilà, comme je disais, le plan avec l'œil qui foisonne, bah, dans la version de Villeneuve, t'as un œil et ensuite t'as un plan sur une sorte de ranger, je sais pas si des panneaux solaires ou...
Ouais, ça a l'air d'être des champs agricoles.
Ouais, c'est ça.
En tout cas, des cultures qui
mais
sont...
Mais c'est complètement désincarné, écolo, c'est gris, c'est la reproduction d'un truc en boucle et c'est une vision un peu déprimante, on va dire, de la science-fiction, mais qui porte en elle une forme de poésie, je trouve.
Ouais, bah moi, au take, je préfère Blade Runner 2049 à Blade Runner. Je passe.
Non, mais tu critiques pas Sicario 2 par rapport à Sicario après une hot take pareil.
Je suis obligé, c'est tout.
Mon Dieu.
Non, mais parce que, non, mais en fait, c'était culotté de faire une suite de Blade Runner 2049. De Blade Runner tout court, pardon, et de faire Blade Runner 2049. D'autant plus que Blade Runner est clairement un film malade, hein, avec ses X montages. Il y en a combien? 7, 8? Bon, il a 7 ou 8 versions différentes, avec 3 minutes de différence à chaque fois, mais bon. Donc, clairement, c'était assez culotté. Et en fait, contrairement à Antoine, en fait, moi, j'aime bien voir juste des mecs qui marchent et qui cherchent quelque chose. Donc,
non, mais ok, j'ai aucun problème avec ça. J'adore Tarkovsky, mais Il y a une manière de le faire.
J'adore The Batman aussi, non?
J'adore
The Batman. Il se promène pas un peu
beaucoup,
dans le noir et il sait pas quoi
mille
faire.
Fois bon. Mieux.
Donc, s'il te plaît.
Il fallait qu'il le sorte à un moment donné.
Je t'ai obligé. C'est comme moi avec Sicario 2 Blade Runner 2049.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Non mais du coup en fait je trouve vraiment sa quête passionnante et par rapport à ce que tu disais je vais me répéter par rapport à ce que tu dis mais je trouve beaucoup plus ce questionnement de je sais que je suis un androïde mais est-ce que je ne serais pas un peu humain beaucoup plus passionnante que la quête qu'a le personnage d'Harrison Ford dans la version où il ne sait pas s'il est un réplicant enfin s'il se demande s'il est un réplicant ou non en fait. Et je trouve ça assez beau. Je trouve que visuellement on est vraiment encore en fait, je pense que c'est l'un des films les plus beaux visuellement de Denis Villeneuve. Vraiment plus que tout. Hein. Par rapport à l'ambition, etc. Parce qu'il y a vraiment cette histoire de c'est tout jaune à Las Vegas, etc. Tout orangé, etc. Mais c'est inspiré d'une vraie tempête des sables en Australie. Donc, why not, j'ai envie de dire. Et ensuite, en effet, peut-être que le film est un peu long. Ça, je ne veux pas le contredire, d'autant plus que je suis tellement d'accord. Et que ça m'avait fait un peu le même effet quand je l'avais revu une deuxième fois en salle, parce que j'avais, en effet, le film n'a pas marché au box-office, mais j'ai pourtant essayé de...
J'ai tout tenté. Deux tickets de cinéma.
J'ai tout tenté, voilà. J'ai essayé de le soutenir jusqu'au bout. Mais c'est ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'il y a cette question de la parentalité qui revient encore une fois. Et c'est du pur Denis Villeneuve, et c'est Denis Villeneuve qui vient encore mettre sa patte d'auteur, même si on n'est pas tous d'accord pour dire que c'est un auteur, je pense que c'est un auteur, dans un grand film qui ne lui appartient, enfin dans une grande histoire qui ne lui appartient pas de base. Et c'est ça qui est très fort, encore une fois, c'est que Denis Villeneuve réussit à mettre sa propre patte dans un univers immense qui est passé entre toutes les mains, qui est passé quasiment entre tous les médiums, hein, parce que comme il y a eu des courts-métrages, qu'ils ont voulu en faire des séries ou des préquels de je ne sais quoi, machin truc bidule, qui aurait été chiant à mourir. Il parle encore une fois de parentalité, ce qui existait déjà dans Prisoners, le rôle du père, dans Premier Contact, le rôle de la mère, et dans Sicario, le personnage d'Alejandro aussi, qui se posait la même question, et dans Dune, bon bah, le père avec Leto et avec tout ça. D'autant plus, on va pas reparler de l'incendie. Hein. Voilà, le rôle de la parentalité est quand même assez prégnant.
Oh oui.
Voilà. Mais je trouve assez fort d'avoir réussi à faire ça tout en englobant, parce que je trouve que le film, ça aurait pu être une suite basique de juste on est dans le même univers et c'est une histoire complètement différente. Et en fait, d'avoir réussi à raccrocher les wagons avec ce qui existait déjà dans Blade Runner. Donc, quand il y a quand même le personnage de Rachel qui revient d'une certaine manière, il y a le personnage de Harrison Ford, Rick, qui revient aussi. Et d'avoir réussi à créer un tout nouveau, pas un tout nouveau monde, mais un monde encore plus foisonnant, parce que je trouve qu'on l'exporte bien plus que dans le Blade Runner de Ridley Scott. Tout en raccrochant les wagons et en même temps racontant l'histoire d'un tout nouveau personnage qui lui-même a en fait un destin qui n'a pas vraiment de rapport avec l'histoire originelle, je trouve ça très fort.
Mais c'est vrai que n'importe quel autre réalisateur, la plupart des autres réalisateurs, ils auraient juste récupéré l'univers et ils auraient creusé une partie de l'univers qui était insoupçonnée. Alors que lui, il prend l'argument du temps et il se dit... littéralement le futur de Blade Runner est dépassé, mais physiquement, puisque je crois qu'on avait déjà dépassé la date ça c'est censé se passer quand
en 2019 je crois,
ouais, un truc comme ça,
oui, je crois,
sais
ouais.
plus, mais en tout cas on est dans ces eaux là quoi. Du coup il se dit bah on va pousser encore plus loin, tu sais, et pousser cet univers dans ses retranchements un peu pour voir où on peut aller dans le temps. Et bah, c'est d'autant plus ironique que il devait y avoir une scène Blade Runner de Ready Player One que et en fait Sony n'a pas donné autorisation de faire la scène parce que Blade Runner 2049 arrivait. Mais je trouve ça assez ironique, sachant que justement Ready Player One, c'est tout ça met en scène justement le fait de toujours se rabattre sur les mêmes univers, sur les mêmes références, là où Villeneuve, il impose vraiment son truc et il prend l'univers de Blade Runner et tu sais, il ponce un peu les trucs et il en fait des grands carrés brutalistes. Et en vrai, tu peux détester ça, et moi je trouve que ça atteint son paroxysme dans la dernière scène que j'adore, où Ryan Gosling s'allonge sur les escaliers. T'as un plan zénithal signature presque, j'ai envie de te dire,
oui.
Et qui fait évidemment référence à la scène, la fameuse scène des Tears in Rain du premier Blade Runner, sauf que là il y a pas de la pluie, il y a de la neige. Et donc littéralement il givre la science-fiction de Ridley
Scott.
Il fait
changer l'eau d'état,
c'est ça. Et surtout lui, il est seul, il est dans son plan, ouais. Il est terriblement seul, t'as l'escalier et autour de lui il y a rien, quoi. Et je trouve que c'est une vision qui est hyper désespérée de la science-fiction, mais je trouve ça hallucinant de l'avoir fait dans un film à 150 minutes.
Mais c'est vraiment un film qui te raconte comment en fait le monde est en train de se déshumaniser à petit feu et ne exactement. Cherche qu'une chose, c'est à retrouver son humanité, même quand elle ne l'est pas, en fait.
Exactement.
Quand elle n'est pas humaine.
Oui, c'est ça. Et tu te rattraches à des souvenirs.
Mais c'est ça, des souvenirs qui sont fabriqués dans ton cerveau et qui ont été implantés par défaut, etc. Et c'est tellement, moi je trouve ça vraiment triste, en effet, toute cette quête de solitude dans tous les panneaux, enfin ne serait-ce que chez lui, où au début tu te dis ah tiens, il a une compagne, etc., puis en fait c'est un hologramme qui est joué par Ana de Armas, à qui il donne une forme de liberté beaucoup plus humaine grâce à un achat, enfin une sorte d'extension quoi, de la chose, une sorte de DLC de l'hologramme quoi.
Et qui pour moi est l'une des plus belles, pour le coup l'un des trucs vraiment que j'aime dans le film, parce que c'est le moment où visuellement il s'éclate vraiment, la scène où du coup elle ramène une femme,
ouais, Mackenzie Davis,
pour qu'ils puissent se coucher ensemble, et que l'hologramme se superpose difficilement sur l'humain et qu'en fait ça ne marche pas, mais l'idée de la superposition et de comment les en fait l'hologramme lui permet de parler de matière numérique qui se rentre dedans, il y a plus de corps en fait, et ça pour le coup je trouve que c'est une des images vraiment marquante du film, où je me suis dit là il tient un truc, et en fait je trouve que c'est un peu trop disséminé dans le film pour que ça me convainque totalement, mais pour le coup ça c'est un des moments que je sauve vraiment du film.
T'as ce truc que dans Blade Runner 1 il y a plus beaucoup d'humanité, et dans Blade Runner 2049 il y a même plus beaucoup d'humains, et j'aime beaucoup cette idée, voilà.
Ouais, et il y a surtout aussi, enfin je trouve aussi cette idée de encore une fois de déposséder les femmes de leur c'est pas de leur fonction, c'est pas du tout ce que je veux dire, parce que c'est plus que réducteur, voire
au contraire faire une fonction, justement,
mais justement c'est ça, ouais. C'est qu'en fait elles ont un tel pouvoir en elles-mêmes, ne serait-ce que par la possibilité de d'avoir des enfants, ce que ne peut pas avoir l'homme, d'être enceinte, etc., la maternité. Et comment le monde est en train de les restreindre, enfin vraiment de vouloir cacher que potentiellement une femme ait pu avoir ce pouvoir sans être une femme humaine. C'est
oui, et d'ailleurs les trois personnages féminins, c'est Ana de Armas qui est une sorte d'illusion, là
c'est
ce genre de boss qui est une pure fonction,
ouais, c'est ça.
Et la personne qui crée les souvenirs, qui est quand même du coup un statut assez particulier, quoi.
Ouais. Ok, bon, très bien. Et bon, du coup, avec ce film-là, qui encore une fois, comme tu l'as dit, en plus, ça n'avait pas marché, donc on pouvait se demander à quel point
mais
ça allait.
Mais qui a quand même prouvé qu'il était toujours en odeur de sainteté avec la critique.
Et oui, voilà.
Parce que les gens qui sont allés le voir l'ont aimé, pour le coup.
Pour la plupart,
mais
oui.
J'étais cinq,
sauf Antoine.
Sauf moi. Mais non, et puis mine de rien, je pense qu'au-delà de la critique, quand t'as un tel flop au box-office, ça peut quand même un peu te coûter ta carrière. Ça ne l'a pas empêché de se retrouver sur une franchise presque encore plus, enfin, pas plus grosse, mais quand même très fantasmée, réputée longtemps inadaptable, à savoir Dune, adapté du roman de Frank Herbert. Et je pense, moi j'avoue que comme en plus j'avais pas été fan de Blade Runner, j'y allais un peu à reculons en me disant en fait j'aimais bien le Villeneuve plus petit, donc j'aimerais bien qu'il reste à cette échelle plus petite. Et le mec fait je vais faire la grosse fresque épique de Frank Herbert, et donc je me suis dit ok, j'attends de voir. Et je dois avouer que même si le premier ne me convainc pas sur tout, c'était quand même globalement une très bonne surprise.
Oui, je suis le plus convaincu. On en a déjà parlé il y a quelques réus, que j'avais beaucoup aimé le premier et que j'en étais assez satisfait, parce que c'est on le rappelle pas assez, hein, mais quand même Dune, pendant des années et des années, ça a été un livre dit inadaptable. Donc, dont beaucoup de réalisateurs, dont un certain Ridley Scott, hein, pour ne pas faire de lien avec Blade Runner, etc., a tenté de faire et a complètement échoué. Hein. Donc, David Lynch, moi j'ai vu sa version aussi, je ne suis pas spécialement fan non plus. Je trouve que c'est assez raté, même s'il y a des bonnes idées, hein, mais je trouve que c'est loin du livre original. Et ce que propose Denis Villeneuve avec le premier Dune, qu'il a co-scénarisé du coup avec John Space, je ne sais pas comment trop on prononce.
Et Eric Ross aussi.
Et Eric Ross. C'est d'ailleurs dans le premier, d'ailleurs je pense que c'est plus que Eric Ross, et je sais pas s'il y a John
ouais,
Space
c'est ça.
Et si, John si, Space est arrivé, il est aussi, bon, voilà, bon, en tout cas c'est Eric Ross et John Space et Denis Villeneuve qui le font tous les trois.
Dommage qu'il ait pris John Space,
c'est vrai. c'est vrai que ça aurait été à propos, disons,
mon dieu.
Mais le travail qu'ils font est en fait, le premier film est victime clairement de l'univers. Parce que mettre en place un univers aussi riche est de facto quasiment impossible, et le rendre digeste à l'écran par rapport à un livre qui fait quand même 700 pages, hein, 750 pages, parce que ne peut pas faire un film, quoi, un scénario, quoi, c'est 200 pages grand max pour déjà que ce soit un gros film. Donc résumer ça en 200 pages avec des idées visuelles et en même temps racontant quelque chose qui n'est pas juste de l'exposition, c'est complexe. Et je trouve que le premier s'en sort particulièrement bien. Alors certes, c'est un petit peu mécanique et un peu la structure. Bon, il faut qu'on parle de ça maintenant. Ok, ça durera 3 minutes, mais il faut qu'on en parle. Et donc c'est pas spécialement intéressant, mais bon, c'est cool. Ça permet de mettre des petits éléments dans la besace finale, quoi. Mais je sais pas trop comment il aurait pu mieux structurer ça pour que ça soit plus digeste, mais surtout au-delà de plus digeste, comment ça aurait pu donner envie aux gens d'aller voir le deuxième.
Ah, oui.
Et c'est ça que je trouve assez fort au-delà de ça, pour pas trop m'épancher sur le premier, c'est que même si les gens n'ont pas forcément adoré le premier, même si les gens même si le film n'a pas vraiment fonctionné au box-office, hein, au-delà des contraintes
il
à
avait
cause
du
Covid, etc. Bien sûr, il a vécu la contrainte du Covid, etc. Mais il est quand même passé dans un grand festival, il est passé à Venise en hors compète. Tout le monde se disait bah waouh, c'est ça y est, c'est le retour de Denis Villeneuve. Certes, il n'était pas à son apogée puisqu'il venait de sortir de Blade Runner 2049 et que ça n'avait pas marché, mais globalement, on pouvait penser que les gens iraient voir un grand spectacle, ce qu'ils n'avaient pas vu depuis quasiment 2 ans puisqu'il y avait le Covid. Et en fait, les gens n'y sont pas allés. Ils ne sont pas vraiment allés, quoi. Il y a eu 400 millions au box-office, un peu plus de 400 millions au box-office mondial.
C'est pas si mal non plus.
C'est pas si mal, mais pour un film qui coûte 160 millions, rien que le budget, hein, on parle pas du marketing, mais le marketing était quand même monstrueux. Je sais pas combien ça a rapporté sur HBO Max, puisque bon, toutes ces données sont assez impossibles à trouver, à part HBO, personne ne les connaît. Je sais pas vraiment comment ça a pu fonctionner réellement en termes de recettes, mais je trouve que c'est assez fort d'avoir réussi à créer un univers aussi palpable, aussi intrigant, pour que les gens aient tellement envie de voir le deuxième.
Ça c'est vrai, parce qu'en plus moi c'est vrai que pour le coup j'étais très impatient de voir la suite, même si il y a 2-3 petites choses qui m'ont laissé sur ma faim. Et bon, comme tu le disais,
mais
moi c'est le côté très mécanique du récit que je trouve beaucoup plus équilibré dans le deuxième. Et je te suis, hein, je pense que c'est très compliqué, je pense qu'ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient faire avec ce truc là
oui.
Parce qu'il fallait quand même introduire tous les persos importants, faut que tu donnes les règles de l'univers, pourquoi l'épice, pourquoi les Atreides versus les Harkonnen, pourquoi l'Empereur, enfin voilà, c'est énormément de choses. Mais c'est vrai que du coup t'as moi, il y a une scène que j'aime beaucoup dans le premier, qui est même ma préférée du premier, qui est cette séquence entre Leto et son fils quand ils s'apprêtent du coup à quitter Caladan, leur planète, et que ils voient les tombes,
ouais, c'est ça,
je suppose, de leurs
ancêtres,
profs, hein, de leurs ancêtres,
et notamment
ça.
Du père Leto.
Et que en plus à ce moment-là se pose la question quand même très intéressante, toujours chez Villeneuve, de l'héritage, de Paul qui n'est pas sûr de ce qu'il veut faire dans la vie, et de son père qui lui dit quoi que tu fasses, tu seras toujours le plus important pour moi, à savoir mon fils. Ce qui est, je trouve, non seulement un des plus beaux dialogues du film, mais en plus le moment où t'as vraiment une relation qui se tisse, et pas juste, tu vois, une scène qui est là pour te dire ah là faut qu'on te montre la relation entre ces deux personnages là, parce que ça sera la dernière fois qu'on peut le faire, ce qui arrive un peu souvent dans le film. Par exemple, entre eux, d'ailleurs, Jessica et Leto, où en fait, ils ont vraiment qu'une seule scène, vraiment tous les deux, avant qu'il y ait l'attaque des Harkonnen et que ça ne peut plus arriver. Et qu'on veut quand même te faire acheter l'idée que oui, ils sont quand même un couple et qu'ils s'aiment. Et en soi, je comprends, tu vois, c'est essentiel. C'est juste que Villeneuve a déjà un peu, des fois, cette froideur-là sans ça. Et que des fois, je trouve que ça joue un peu sur le film. D'autant qu'au final, il est quand même très doué pour, comme tu le dis, le rendre l'univers de manière très tangible, très palpable. En plus, avec un super mix de VFX et d'effets pratiques. Et je trouve que Arrakis, la ville d'Arrakis, où toute la séquence, notamment avec les omniptères, où t'achètes vraiment le fonctionnement de cet univers-là fonctionne extrêmement bien, mais aussi d'ailleurs parce qu'il te l'explique que visuellement et pas trop par le dialogue.
Ouais.
Et je trouve que quand il fait ça, il est vraiment à son meilleur.
Ouais, non, moi j'ai des gros problèmes avec la narration. Comme je l'ai déjà dit, on a beaucoup reproché le côté froid, etc. Mais comme on en a parlé avec Blade Runner, c'est son style. Et je trouve que finalement, il correspond à une interprétation de Dune. J'écris un article d'ailleurs sur le sujet. Mais tu vois, par exemple, le fait que ça soit aussi éloigné de ce que Jodorowsky en aurait fait est intéressant dans le sens où finalement, ils ont les deux interprétations les plus éloignées. C'est-à-dire que Jodorowsky est plutôt dans le côté psychotrope. En fait, Jim, hein, car il y a quand même des grandes chances que Frank Herbert soit beaucoup inspiré de ses expériences avec les champignons pour décrire l'épice. Là où Villeneuve, évidemment, est beaucoup plus pragmatique. Et encore une fois, il a cette passion pour l'architecture, etc. Enfin, c'est-à-dire que pour lui, Arrakis, c'est vraiment une immensité de sable sur lequel les humains ont posé des gros blocs de béton, quoi. Enfin, c'est franchement, je trouve que ça fonctionne surtout dans sa lecture que lui a de Dune, c'est-à-dire d'une table quasi exclusivement politique.
Oui. Ouais.
Sur l'avènement d'un homme, d'une personne noble qui va dans la résistance entre guillemets pour faire ce truc voilà qu'on appelle maintenant le White Savior, c'est-à-dire plus ou moins leur apprendre leurs propres coutumes, sauf qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça parce que quand il revient c'est pour
reprendre
le pouvoir. C'est pour reprendre le pouvoir de manière un peu et je trouve ça assez malin, donc qu'il le souligne avec le personnage de Shani dans la suite, mais j'ai l'impression que la première partie patine complètement parce que il a vraiment du mal à se dépatouiller et je suis d'accord, c'est quasi impossible, il y a beaucoup de personnages, etc. Et d'ailleurs dans le livre en lui-même, vu que les scènes sont souvent très grandes, les personnages ont assez peu d'interactions en nombre d'occurrences, sauf que vu que les scènes forcément à l'écrit sont beaucoup plus longues, ça fonctionne mieux. Mais après tu peux te dire comment il aurait dû faire, est-ce qu'il aurait dû couper des personnages, franchement je pense que ça aurait été possible quoi. Tu vois, genre Duncan Idaho, etc. Tous ces personnages que tu peux fusionner. C'est des personnages que tu peux fusionner, tu vois.
Ouais.
Non, mais les gens ont créé à la trahison, donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a pas fait, tu vois. Mais
Non, mais tu vois, Duncan, pour le coup, le personnage me paraît quand même essentiel dans le 1, parce que c'est, enfin, sa mort est quand même aussi une bascule dans le film.
Ouais, mais du coup, tu vois, enfin, personnellement, sa mort, je m'en foutais, parce que tu l'as vu deux fois. De la même manière que la mort du Duc Leto, qui est quand même le traumatisme sur lequel se fonde tout le personnage de Paul. Et encore une fois, je dis pas que il a mal fait. Je dis que possiblement que c'était pas possible de le faire, mais le fait est que le résultat est que je trouve que la gravitas qu'impose la mort de Leto dans le livre est pas du tout présente dans le film. Ils ont beau te mettre un plan sur son portrait qui brûle dans le 2, même si j'aime beaucoup mieux le 2, du coup, je l'ai déjà dit, je trouve qu'on a vraiment du mal à ressentir ce traumatisme-là, quoi. Donc, est-ce que c'était parce que c'était impossible ? Peut-être. Le fait est que je trouve que le premier Dune n'est pas un de ses meilleurs films, mais après, je persiste à dire que esthétiquement, ça se tient de fou, et surtout, quel putain de spectacle! La séquence que j'attendais beaucoup pour le coup, parce que je l'adore dans le livre, de l'attaque du Moissonneur où tu vois les vers pour la première fois, si je ne m'abuse, en salle avec un bon système son, incroyable quoi, vraiment ça déchire.
Non, ça, je suis entièrement d'accord.
Et ça compte, hein, j'ai envie de te dire, pas que interprétation de texte, tu vois, genre voilà. Donc je trouve que ça continue à fonctionner. Après, on en reparlera peut-être par la suite, mais. Vient se poser peut-être la question de la suite de sa carrière. Là, il y a le fameux projet Cléopâtre qui revient dans les discussions. Est-ce que, enfin, on n'a pas envie de le voir faire peut-être revenir à des budgets plus modestes, à des projets un peu plus, tu vois.
On dit souvent ça des réalisateurs comme lui ou Nolan, où c'est tellement devenu la folie des grandeurs que t'as envie de dire, est-ce que resserrer un peu les choses.
Parce que là, Dune, quand même, tu fais difficilement plus mégalo dans le sens, pas mégalo de sa part, mais dans le sens où c'est quand même un des projets de science-fiction qui a le plus souvent été considéré comme une sorte de Graal cinématographique, vu que tout le monde t'as vu que Lynch s'est pété dedans dessus, tu vois. Maintenant qu'il a fait ça, tu vois, est-ce que c'est pas le moment de redescendre un petit peu?
En même temps, l'idée au-delà de ça, c'est est-ce qu'il peut monter encore plus haut? Parce que vraiment, c'est un livre culte de science-fiction. On peut quasiment pas faire plus culte, hein. C'est quasiment, c'est ce qui a plus ou moins inspiré Star Wars, hein. Donc, d'une certaine manière.
Une immense partie de la science-fiction contemporaine, je pense.
Ouais, bien sûr. Mais bon, quand tu parles, enfin, dans l'idée, tu vois, genre, Star Wars, c'est le Graal de la science-fiction au cinéma, quoi. Et, je trouve que c'est vraiment, pour moi, et j'en discutais avec ma chérie, c'est, l'objet ultime de grand spectacle. Avec plein de propos, enfin en tout cas pas à partir pour le 2, hein, j'entends, grands propos politiques, voilà, il y a des questionnements très sérieux sur la société en général, et en même temps un pur produit marketing, quoi. Le film est pas vraiment, enfin il repose énormément sur la promo de ses acteurs. Quand tu vois Zendaya, la manière dont elle fait le buzz sur les tapis rouges, parce qu'elle est hyper grand, enfin c'est une super communicante, quoi. Quand t'as Timothée Chalamet qui est quand même ben l'acteur de la nouvelle génération le plus apprécié par le grand public et notamment le public ado, etc.
Qui non, déplaise nos lecteurs sur Facebook qui ont vraiment du mal à avaler cette pilule.
Ben pourtant, en plus, on peut lui reprocher, enfin certains lui reprochent son jeu, etc. Moi, je trouve plutôt bien dans le 1, mais dans le 2, je trouve vraiment super, quoi. Ouais.
Puis il est hyper, oui, bien, il est plus, hyper bien casté, pour le coup.
Il doit porter, oui, voilà, en plus, tu vois, de
mais
mec.
Oui.
Enfin, il est chétif, chétif, mais un peu fort de regard, enfin, excuse-moi,
ouais,
mais
ouais,
c'est
et
lui, quoi.
Puis qui doit, du coup, te faire accepter la transformation progressive du mec en pseudo-dictateur, enfin, en proto-dictateur, et où tu fais, ouais,
non, mais c'est
et
ça.
Je l'accepte. Enfin, tu vois, en regardant le film, je me pose pas trop la question.
C'est ça. Et le film est vraiment, ça, c'est un grand film hollywoodien, je trouve, dans le spectacle, dans plein de choses. C'est un blockbuster intelligent, comme on pourrait dire. Mmh. Et en même temps, c'est aussi une pure produit marketing intelligent. Non seulement il a une ribambelle d'acteurs qui peut donner envie aux gens de venir. Donc t'as la nouvelle coqueluche, Timothée Chalamet, t'as Zendaya, machin. T'as aussi Florence Pugh, qui a quand même été remarquée par une certaine frange du genre avec Midsommar, avec ses films à elle. T'as aussi du l'autre côté Austin Butler qui a fait le buzz. Alors certes, il y a pas longtemps avec Elvis, qui est peut-être pas aussi connu que les autres, mais bon, il a fait le buzz. Et en même temps, là, il vient dans un rôle complètement à l'opposé d'Elvis, d'une certaine manière,
Ça dépend de la relation que t'as avec Elvis, hein.
Non, mais je veux dire, en termes d'iconographie, quoi. Si on peut dire ça d'une personne. Mais juste de look, par rapport à, en mode Elvis, le beau gosse, rocker, etc. Et alors que, bon, ben, voilà, quoi. Fade Rota, c'est un autre délire, quoi. Disons, après, la question de la psychose est différente.
Disons qu'Elvis n'égorgeait pas 4 personnes par jour.
C'est ça. Il s'égorgeait lui-même.
Bah, on sait pas.
Il est enfermé après tout, hein, donc on sait pas trop. Et à côté de ça, je sais pas trop quoi dire de plus, mais en effet, cette idée de qu'est-ce qu'il pourrait le faire plus après. Et je pense qu'en effet, il pourrait rien faire pour l'instant aussi haut et aussi, avec une telle échelle, ampleur, etc., d'un gros blockbuster. Je préférerais en effet qu'il se retrouve dans quelque chose de plus petit.
Mais en même temps, je te dirais, moi, c'est en fait ce qui m'a marqué avec Dune 2 et qui me fait même pas mal, du coup, relativiser les problèmes que j'ai avec le 1. Parce qu'effectivement, dans le 1, t'as non seulement la frustration que les personnages soient un peu abandonnés en cours de route, qu'il y a des personnages qui n'ont pas autant de place que tu aimerais qu'ils en aient. Mmh. Et puis en fait, bah aussi, du coup, effectivement, t'as des acteurs qui débarquent pour des fois 5 minutes de film alors qu'ils sont super talentueux, que tu te dis, ouais, mais a priori, ils méritent plus. Et des fois, tu te dis, c'est le cas de Zendaya ou de Javier Bardem dans le premier, où tu te dis, évidemment, ils auront de l'importance dans le 2, donc je l'accepte. Et en même temps, je me suis dit, t'as raison, c'est non seulement un super argument marketing, en fait, de dire, voilà, j'ai un casting d'ensemble, de fou furieux pour refléter l'ampleur déjà de ma fresque épique. Mais pour moi, ça a totalement sens par rapport à tout ce qu'on a dit, en fait, dans ces rues jusque là. À savoir que finalement, le cinéma de Villeneuve et un cinéma qui, en particulier depuis sa période américaine, se pose la question de c'est qui mes héros, en fait, c'est qui mes protagonistes et à quel point la limite du point de vue, comme celui d'ailleurs que ressent Louise dans Premier Contact, et finalement que tous les personnages se croient protagonistes de leur histoire, et de mettre des personnages aussi, des acteurs aussi identifiés des fois sur des petits rôles, t'amène constamment à repenser qui est effectivement héros, qui a soi-disant l'ascendant sur la situation, ce qui est d'ailleurs le cas, hein, tu vois, des Bene Gesserit qui pensent contrôler la propagande et la prophétie et les lignées qu'ils sont en train plus ou moins soit de créer ou d'annihiler, et en fait bah ça se retourne contre eux puisque Paul émerge en héros entre gros guillemets, puisqu'en fait ça n'en est pas vraiment un, et que Villeneuve, comme tu le disais d'ailleurs, assume le côté très concret et politique, mais il abandonne pas néanmoins, tu vois, le côté spirituel derrière, en disant juste bah à quel point ça relève de sa vision à lui des choses, à quel point ça relève de la prophétie qui a déjà été plus ou moins écrite avant lui, mais à quel point il rentre quand même dans ce moule là qu'il le veuille ou non. Et je trouve que ça dit, pour moi c'est peut-être ça en fait le thème majeur de Villeneuve, en fait, comment tu t'inscris dans un univers déjà qui est le tien et où parfois tu n'es qu'une toute petite chose au sein d'une immensité, tu vois, qui te dépasse complètement, mais où au final tu es un maillage essentiel de ce qui se passe. Et surtout, à quel point bah on se crée des messies ou des héros qui n'ont pas lieu d'être. Et je trouve que c'est pour le coup là où tu vois limite je comprends que c'était déjà courageux dans Blade Runner de le faire, de dire qu'en fait K n'est pas l'élu qu'il croit être dans le film, et c'est une forme de déception peut-être que moi-même j'avais mal reçu sur Dune. Comme tu y es un peu plus préparé, quand ça arrive, surtout quand t'as lu le livre, tu te dis quand même, à l'heure où on a quand même supporté une décennie de super-héros dont on ne remet jamais trop en question le bien fondé des actions et tu vois héroïque, là t'es face à l'émergence d'un messie qui va créer une guerre sainte sur son nom, et au final c'est jamais trop remis en question. Et le fait que, mine de rien, même si évidemment c'est dans le livre, le fait qu'Hollywood soit allé à fond dans cette vision là du truc, je trouve ça assez courageux, et je trouve que ça encapsule pas mal ce qu'est capable de faire Villeneuve de meilleur, en fait. Et pour le coup, même si Dune 1 a ses limites, je lui pardonne beaucoup plus maintenant que j'ai vu le 2, et où je me dis, il y a un truc extrêmement cohérent d'un point de vue thématique et de mise en scène aussi. Et je suis vraiment, je trouve qu'il y a une sorte d'apothéose quand même qui a été atteinte avec ça, qui fait que pour le coup, je serais évidemment curieux qu'il revienne à un truc plus petit en termes d'échelle, mais s'il tente un truc encore plus énorme, je serais assez curieux de voir ce que ça peut donner.
Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus énorme? C'est ça, moi, la question. C'est
Fondation, c'est déjà pris, et mon Dieu.
Ouais, à part des trucs, non, mais à part des éléments de science-fiction type Hyperion ou des choses comme ça qui sont aussi ambitieuses, disons. Mais je vois pas, parce que je trouve qu'il y a l'idée là actuellement qui serait sur Rendez-vous avec Rama, qui en effet serait hyper ambitieux. Mais est-ce que vraiment, à part s'il continue Dune, hein, évidemment,
il est prévu aussi
potentiellement qu'il fasse une suite.
Ça va dépendre du score au box-office, je suppose.
C'est ça. Mais normalement, on peut supposer que ça marchera bien vu la hype grandissante autour du film.
On verra, parce que.
C'est vrai. Bah, à l'heure de cette revue, on saura sans doute, hein, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Mais je sais pas, tu vois, tu parlais avec Cléopâtre, et je pense que ce serait un truc intéressant. Lui qui a quand même, dans ses quatre premiers films, tourné autour de la question de la femme, et notamment de la place de la femme de pouvoir à partir de Premier Contact ou de Sicario avec Emily Blunt, de la place des femmes dans un pouvoir très masculin, de voir la pharaone Cléopâtre dans cette époque très masculine, même si notre époque l'est toujours, hein. Mais je serais assez curieux de voir ce qu'il
en
fait.
Oui, ou même ne serait-ce que de Shani et de Roulan dans le dernier.
Oui, aussi, Dune, hein. Ouais. Complètement. Bah, Shani, c'est ça aussi. Hein.
Puis ça te renvoie aussi à ce que, mine de rien, l'évolution de Villeneuve, c'est que derrière son style très moderne et très, on pourrait dire pubard de manière vulgaire, mais que je dirais très stylisé, et il revient en même temps de plus en plus, et Dune, je pense, le prouve, à une sorte de fresque épique un peu à l'ancienne, tu vois, encore plus avec, je trouve, la division en deux parties, qui relève plus du Hollywood classique. Donc pour le coup, c'est vrai qu'un truc comme Cléopâtre, qui mélange un peu finalement passé et modernité du cinéma, me semble pas déconnant sur le papier.
Et le côté brutaliste, là, il va se faire plaisir.
Bah ouais, voilà.
Voilà. Sinon, il ne reste plus qu'à faire 2049, l'Odyssée de l'espace. C'est le dernier.
Ah oui, c'est vrai, en plus, oui.
Le dernier Milestone.
Voilà. Pour allier à du Blade Runner 2049, histoire qu'on détruise sa carrière, et voilà.
Et ben voilà. On a réussi, on a passé en revue les 11 films de ce cher Denis, et je dois avouer que c'était bien cool de pouvoir explorer avec vous toute cette filmographie moins limpide qu'il n'en a l'air, mais finalement qui a pas mal de choses assez intéressantes à explorer d'un point de vue thématique. Bon, c'est juste dommage que cette revue reste à huis clos, alors que je dis depuis des mois qu'on devrait en faire un podcast, mais personne ne m'écoute. Mais je sais que c'est compliqué à mettre en place, et si on le faisait, il faudrait rappeler aux auditeurs de s'abonner, de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et de commenter, et on devrait en retour bien évidemment les remercier, parce que c'est normal et important.
Ben ça, c'est bien vrai. Hein.
Oh non, on avait dit non.
Mort le nez. Mort le nez.
Il le fallait.
Il le fallait.
Je me suis dit, putain, j'ai pas fait l'accent québécois. Même si ça ressemblait plus à un accent belge, hein, pour dire.
Mais j'avoue que c'était plus belge que québécois.
Ah, c'est vrai que bon, la frite. Hein.
Écoute, quand on fera un podcast sur les frères d'Ardennes, tu pourras le ressentir.
Ah oui, les frères d'Ardennes. Ah, l'avantage, c'est qu'on pourra dormir pendant 2 heures au moins.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.